Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour mesdames et messieurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question d'une opération de la DPJ dans une école juive, des soins d'hygiène dans les CHSLD, des femmes qui manifestent contre la culture du viol au Brésil, des Québécois qui ont voté contre la loi en faveur de l'euthanasie, de la Bible en emoji, du format estival de cette émission et en terminant, les dernières bonnes nouvelles du jour. Bonjour mesdames et messieurs, et oui, débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme de la presse et qui s'intitule « Opération de la DPJ dans une école juive ». Eh bien, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la DPJ, pour ceux qui ne sont pas des résidents du Québec ou qui ne sont pas familiers avec cette appellation? Il s'agit de la Direction de la protection de la jeunesse. Et oui, la DPJ a mené une opération appuyée par plusieurs policiers de Montréal dans une école juive. C'est ce que nous apprenait la presse. Elle dit également que vers 14 heures, un autobus scolaire s'est garé devant la porte principale du bâtiment. Dans le calme, une trentaine d'enfants d'âge primaire sont montés à bord. Un peu plus tôt, quelques dizaines d'adolescents ont quitté les lieux. Du côté du ministère de l'Éducation, on indique qu'il n'y a aucun permis pour une école à cette adresse, ce qui confirme qu'il s'agit bel et bien d'une école clandestine et illégale. Ce qu'on dit, mesdames et messieurs, c'est que l'intervention de la DPJ pourrait avoir un lien avec le fait que cette école est illégale. Puisque les élèves sont tenus d'être inscrits dans une école légale, eh bien, la DPJ a le droit d'intervenir, de questionner, de vérifier et de s'assurer que les enfants sont bel et bien inscrits dans une école. Maintenant, rien n'a été confirmé en ce qui concerne les motifs de la DPJ parce qu'on ne veut pas nuire à l'enquête et on ne veut pas divulguer des informations confidentielles ou privilégiées. Par contre, ce qu'on apprend, c'est que, justement, le ministère de l'Éducation a mis sur pied un comité interministériel pour se pencher sur la question des écoles illégales. Et ils vont déposer aux autorités du ministère de l'Éducation un document avec des recommandations pour un peu leur proposer comment aborder ce sujet délicat. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que c'est complexe, la question des écoles illégales. C'est complexe parce que ces écoles-là sont souvent le fruit d'une réflexion, ou c'est du moins un service qui est offert à des gens qui recherchent ce type d'encadrement. C'est un peu une alternative à l'école publique ou à l'école privée conventionnelle. Moi, vous le savez, j'ai milité pendant des années en faveur du droit des parents d'avoir une école selon leurs valeurs et leur foi. Qu'on soit de foi théiste ou de foi athéiste, je crois que les parents ont le droit, là où le nombre le justifie, de pouvoir mettre sur pied une école, mais une école qui est conforme aux attentes pédagogiques, au régime pédagogique et aux installations qui sont réglementées par le ministère de l'Éducation. Et si ce n'est pas le cas, je crois que l'école doit faire ses devoirs et s'ajuster. Là où est-ce que l'école doit avoir toute la latitude, c'est sur le plan philosophique. Si des parents veulent une école juive, si des parents veulent une école chrétienne, si des parents veulent une école bouddhiste, c'est la prérogative des parents. La Bible nous dit « Enfants, soyez soumis à vos parents ». Maintenant, si les parents n'ont pas enseigné les enfants dans la voie de Dieu, comme Dieu le veut, eh bien ces parents-là devront rendre compte à Dieu. Maintenant, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que justement, les attentes pédagogiques, l'encadrement, l'infrastructure respectent des normes de sécurité, respectent des normes qui vont faire en sorte que l'élève va recevoir une éducation de qualité. Donc, c'est un dossier à suivre, mesdames et messieurs. Mais il n'y a pas seulement dans le monde scolaire qu'on vit des problèmes. On vit des problèmes partout, mesdames et messieurs, mais spécialement dans les CHSLD. Et oui, pour quelqu'un qui est de l'extérieur du Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver, un CHSLD? C'est un centre hospitalier de soins de longue durée. Eh bien, ce qui arrive, normalement, dans un centre hospitalier de soins de longue durée, on devrait offrir des soins. On en offre. Mais là où est-ce qu'il y a une lacune, c'est au niveau des soins d'hygiène. Ce qu'on nous dit dans la presse, c'est que les soins d'hygiène dans les CHSLD, eh bien, éprouvent de sérieuses difficultés. Dans un article intitulé « Soins d'hygiène dans les CHSLD, encore un délai pour les mesures promises », voici ce qu'on nous dit. « Promises il y a un an, des mesures pour améliorer les soins d'hygiène dans les CHSLD ne seront annoncées que cet automne. » Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a déclaré hier qu'il avait besoin de quelques mois encore pour concocter son plan. Le ministre était alors questionné par le député caquiste François Paradis qui réclame l'adoption d'une norme nationale de 2 bains par semaine dans les CHSLD. La mesure coûterait environ 30 millions de dollars par année. Savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Ça s'avère important que les patients qui vivent, qui séjournent dans les CHSLD, puissent avoir un minimum de 2 bains. Qu'on coupe dans le renouvellement des habits des policiers, parce qu'on change les habits des policiers, et des nouveaux logos, des nouvelles lettres, etc., qu'on coupe dans ces dépenses-là. Mais quand là, ça touche l'hygiène des gens les plus vulnérables, ben, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il me semble que des policiers peuvent porter, année après année, le même type de vêtements. Ça ne change pas grand-chose. Mais ça change une vie, ça, n'avoir seulement qu'un bain par semaine. Et ça, c'est déplorable, mesdames et messieurs. Et j'appuie l'opposition de frapper sur ce clou-là parce que c'est une question de dignité humaine. Mais il y a des problèmes encore plus graves que ça, mesdames et messieurs. C'est des problèmes importants, l'hygiène. Mais quand une jeune fille se fait violer par une trentaine d'individus, là, c'est vraiment grave. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Encore une fois, c'est la presse qui nous apprend cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Brésil, les femmes manifestent contre la culture du viol. Et oui, des milliers de femmes ont manifesté dans les principales villes du Brésil pour dénoncer la culture du viol à la suite du viol collectif sur une adolescente à Rio le 21 mai qui bouleverse le pays. C'est ce que nous apprenait la presse. Et je poursuis. Des milliers de manifestantes ont défilé mercredi après-midi dans plusieurs villes du pays, notamment Rio, et Porto Alegre, et surtout Sao Paulo, où elles étaient plus de 5000 à protester. Sur les pancartes, on pouvait lire des messages comme « Le viol est un crime, pas du sexe ». Mesdames et messieurs, c'est horrible ce qui s'est passé. Mais je suis content d'une chose, c'est qu'on va augmenter les peines en ce qui concerne le viol. Et ça, c'est important. Parce que c'est quelque chose de dégradant, de grave. C'est une des plus graves agressions qu'une femme ne peut pas subir. Parce que savez-vous quoi? On vient d'agresser physiquement un individu, et ce n'est pas seulement une agression physique, c'est une intrusion dans la partie la plus intime de cette femme-là. Et ce qui me bouleverse quand je lis cet article, c'est selon les statistiques de 2015, la zone ouest de Rio a concentré près de la moitié des plaintes pour viol, 705 sur 1610 au total. Évidemment, ça relance toute la question de l'avortement. Est-ce qu'on doit avorter des femmes qui tombent enceintes suite à un viol? C'est une bonne question, mesdames et messieurs. C'est une bonne question à débattre. Mais savez-vous quoi? Si l'avortement était légal seulement pour des causes de viol, ce serait une chose. Mais on se sert de ce prétexte-là en disant « On doit légaliser l'avortement parce qu'il y a des femmes qui se font violer puis ils tombent enceintes. » Mais au nom de cette exception-là, on ouvre la porte à tout le monde. Et c'est ça qui est grave. Selon l'ONG Forum de sécurité publique, la presse nous apprend que la police brésilienne a enregistré une agression sexuelle à toutes les 11 minutes en 2014. Ça, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'à la fin de l'émission, il va y avoir une autre agression sexuelle au Brésil. Nous, en ce moment, au Canada, on se penche sur la question de l'euthanasie. Voici ce que Le Devoir nous rapporte à cet effet. Euthanasie. Les Québécois qui ont voté contre la loi s'expliquent. Certains Québécois ayant voté contre le projet de loi sur l'aide médicale à mourir mardi soir estiment que celui-ci ne va pas assez loin, tandis que d'autres considèrent qu'il ne contient pas assez de garde-fous. Le conservateur Jacques Gourde, pour sa part, aimerait qu'une forme d'obligation soit instaurée pour que les proches du malade soient informés de sa volonté de mourir. M. Gourde avait déjà indiqué qu'il aurait préféré qu'Ottawa se prévale de la clause dérogatoire pour 5 ans. Question d'apprendre de l'expérience québécoise. Ça, mesdames et messieurs, savez-vous quoi? Moi aussi, j'aurais aimé ça, que Ottawa puisse utiliser la clause dérogatoire pour 5 ans pour dire à la Cour suprême, écoutez, c'est une question sensible, c'est une question délicate, on va se pencher là-dessus, et s'il le faut, on va modifier les lois, et s'il le faut, on va modifier la Constitution pour s'assurer qu'on ne se mette pas à tuer des gens vulnérables. Mais parce que c'est le Parti libéral qui est au pouvoir, eh bien évidemment, ça allait dans la direction de la Cour suprême. Donc, 39 députés québécois ont voté pour C-14 et 37 ont voté contre. Il y en avait 2 qui étaient absents. Ce qui arrive, c'est que tous les députés, néo-démocrates et les bloquistes, ont voté contre le projet de loi. Savez-vous pourquoi? Ce que Le Devoir nous dit, c'est parce que la loi n'allait pas assez loin. C'est pas parce que la loi est horrible. Non, c'est parce qu'elle n'allait pas assez loin. Mais du côté des conservateurs, Stephen Blaney estime que la liberté de conscience des professionnels de la santé n'est pas assez protégée dans C-14. Et ça, c'est important. C'est important que les professionnels de la santé puissent avoir le droit de retrait sans obligation de référer. En d'autres mots, si quelqu'un n'est pas à l'aise, par motif de conscience, de donner la mort à un patient, même s'il la réclame et même si c'est légal, eh bien, qu'il puisse justement ne pas avoir à le faire, et non seulement ne pas avoir à le faire, mais ne pas être obligé de référer ce patient à un autre collègue. Parce que, en d'autres mots, c'est s'en laver les mains. Et si quelqu'un, dans sa conscience, n'est pas à l'aise avec cette pratique, eh bien, il ne veut pas être associé à cela. Mais ce qui arrive, c'est que les conservateurs, pour leur part, veulent s'assurer que cette protection-là soit bien indiquée parce que ce n'est pas nécessairement clair de la façon que la loi est formulée à cet effet. Un dernier point, la Bible en emoji débarque sur la toile. Et oui, on prend la Bible, on la traduit intégralement, mais au lieu de mettre des mots, par exemple, si on dit 1, ben on va mettre le chiffre 1. Et lorsqu'il y a des émotions qui sont exprimées, eh bien, au lieu de mettre le mot tristesse, pleura, eh bien, on va mettre un petit bonhomme en cercle avec l'émotion. Hein? Vous avez le smiley qui a un sourire et vous avez les petits bonhommes ronds. Normalement, ils sont jaunes. On utilise ça sur les réseaux sociaux ou sur les appareils intelligents comme les téléphones intelligents, etc. Eh bien, c'est pour rejoindre la génération Y et la génération Z pour les intéresser à lire la Bible. Certains trouvent que ce n'est pas une bonne chose. D'autres trouvent que c'est très pertinent. Eh bien, le débat est lancé. Et donc, ça prend simplement quelqu'un qui a de la créativité pour lancer une idée pareille. Les dernières bonnes nouvelles du jour, mesdames et messieurs. Et oui, les dernières, parce que la semaine prochaine, à compter de la semaine prochaine, eh bien, le Tour d'horizon fera relâche. Et oui, mesdames et messieurs, le Tour d'horizon fera relâche. Vous n'en croyez pas vos oreilles. Hein? Eh oui, nous allons reprendre en septembre. Mais, soyez sans crainte, d'ici là, j'animerai l'émission Les Grands Titres. Il s'agit de la lecture des titres des articles du jour qui intéresseront les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Maintenant, demain, il n'y aura pas de bonnes nouvelles du jour puisque je vais avoir en entrevue différentes personnes qui étaient présentes à la manifestation d'hier contre le projet de loi C-14 sur l'euthanasie. Vous allez entendre de vive voix des gens qui ont participé à cette manifestation-là et qui vont exprimer leur opinion sur le sujet. En terminant cette émission, voici les bonnes nouvelles du jour. Madison, New York Grill & Bar, offrira exclusivement du bœuf élevé et préparé sans ajout d'hormones, de stéroïdes ou d'antibiotiques et accrédité Human Certified. Et donc, mesdames et messieurs, ils s'en vont dans la direction de IW. C'est une bonne nouvelle. Célébrons les meilleurs nouveaux produits alimentaires au Canada. Les marques Metro SENC correspondent à l'entreprise ayant remporté le plus grand nombre de prix au concours de cette année. Et donc, félicitations à l'entreprise Metro. Et en terminant, l'agence de notation Standard & Poor's révise la perspective liée à la cote de crédit du Québec de stable à positive. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça nous donne une meilleure note de crédit. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à être des nôtres demain pour cette dernière émission du Tour d'Horizon. Merci et à demain.
Merci d'avoir pris part à ce Tour d'Horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, @ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!